une boîte qui a cru très très vite. Hein. On a des rythmes de croissance qui sont comparables, voire supérieurs à des boîtes de software. Les choses vont bien et vite. Mais je prends du temps pour moi, je prends du temps pour ma famille, ma copine, mes copains, etc. Donc c'est, faut pas se cramer.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Nina Ledin, partenaire chez Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Et si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans La Galère, je suis Nina Ledin, partenaire chez Start the Fuck Up. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Driss Ibenmansour, fondateur de Moto. Salut Driss.
Salut Nina.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer par une rapide présentation ?
Bien sûr, merci de me recevoir. Très content d'être là. Donc, je m'appelle Driss, j'ai 35 ans. J'ai grandi à Casablanca au Maroc, j'ai fait mon lycée là-bas. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence et je suis arrivé à Paris pour faire mes études. Donc j'ai fait une prépa HEC puis HEC et ensuite j'ai démarré ma carrière en conseil, en stratégie, comme beaucoup de mes anciens camarades. Donc j'ai fait 3 ans de conseil dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger, qui est un cabinet allemand. Qui était une super expérience, mais très rapidement je me suis rendu compte que je voulais faire autre chose, que je voulais faire quelque chose de plus concret, et du coup j'ai démarré la deuxième partie de ma carrière qui était plus axée startup scale up, avec un angle mobilité urbaine, ce qui m'a conduit aujourd'hui à créer Moto il y a 2 ans. Donc Moto c'est une solution de mobilité basée sur le modèle de la souscription. Donc concrètement ce que l'on fait c'est qu'on design et on conçoit des vélos électriques de qualité connectés qu'on distribue sous un modèle d'abonnement. Tout compris, donc l'abonnement va comprendre évidemment le vélo qui est un vélo personnel, hein, c'est pas un vélo en libre service, un service de réparation à la demande, une app connectée et une assurance.
Ok, trop bien, merci beaucoup. J'ai plein de questions à te poser sur Moto. Peut-être mini retour en arrière, tu m'as dit que tu avais commencé un peu donc en cabinet de conseil puis dans la mobilité. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à bosser dans la mobilité ? C'est par hasard ? C'est un choix de ta part ?
Alors, c'est un peu par hasard. J'ai démarré pendant mon expérience chez Roland Berger, tu avais Uber qui commençait à se développer fortement à l'international, hein, c'était en 2014, et j'ai découvert le produit, le service ici à Paris un peu comme tout le monde par hasard, et j'ai adoré l'idée derrière, l'idée de pouvoir en fait avoir une solution de mobilité fiable en moins de 5 minutes en cliquant en téléchargeant une app, et je me suis renseigné un peu sur cette boîte donc qui était Uber à l'époque, une entreprise américaine qui n'était pas du tout connue à l'époque ou beaucoup moins, et très rapidement je me suis rendu compte qu'ils recrutaient énormément et qu'ils cherchaient beaucoup de personnes à l'international parce que justement ils voulaient lancer de nouveaux marchés. Et moi, c'était cette dimension qui me plaisait beaucoup, de me dire, en fait, d'entreprendre au sein d'une entreprise qui avait en fait des ambitions importantes à l'époque. Donc, je les ai rejoints, j'ai été recruté pour lancer d'abord le Maroc, donc mon pays d'origine, ce qui
que
était génial.
Tu connaissais bien, ouais. Donc,
j'ai adoré cette opportunité, donc je les ai rejoints directement. Et en fait, en les rejoignant, on devait lancer le Maroc, mais il y a eu pas mal de soucis d'implémentation au Maroc, d'implantation, des soucis réglementaires, des soucis de paiement, parce que c'est très particulier au Maroc, mais tu peux pas payer en devises, tu peux pas faire ressortir les devises, donc il y a tout un système de blocage des devises et de la monnaie locale. Donc le temps de résoudre ces problèmes, et donc c'est des problèmes plutôt juridiques, d'ordre réglementaire, on m'a envoyé au Caire en Égypte, où j'ai en fait assisté le patron du pays à l'époque pour lancer les opérations et les faire grossir. Donc j'y ai passé quelques mois. C'était enfin vraiment une super expérience parce que j'ai vraiment vécu ce qu'est l'hypercroissance et la croissance exponentielle parce que le marché en fait du Caire est gigantesque. Hein. Le Caire c'était quasiment 30 millions de personnes. C'est un marché énorme où le marché du transport, enfin en tout cas l'industrie du transport ne fonctionne pas du tout. Donc on arrivait avec une offre de VTC, de voitures de transport partagé, où il y avait d'un côté, en fait, tout le sujet d'Uber, c'est de faire matcher une supply, donc une offre importante avec une demande importante. Et tout le concept, en tout cas, la philosophie d'Uber dès le départ, c'était de dire, on va construire l'offre. Et en fait, à mesure que l'offre va grandir, la demande va suivre. Donc, l'idée, c'est de faire gonfler cette supply, de subventionner cette supply. Donc, c'est ce qu'ils ont fait dans tous leurs pays. C'est la même stratégie. C'est d'embaucher, entre guillemets, un maximum de chauffeurs, pour ensuite, montrer que le service est omniscient, que tu as une voiture disponible à moins de 5 minutes n'importe où dans Paris, n'importe où au Caire. Et, en fait, ça fait appel d'air des clients qui viennent naturellement. Donc c'est ce qu'ils appellent le cercle vertueux d'acquisition. Plus t'as de supply, plus t'as de demande, et plus t'as de demande, plus t'as de supply. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait au Caire. Donc on onboardait des chauffeurs par milliers toutes les semaines. Je me souviens avoir fait des onboardings dans des amphithéâtres où il y avait 500, 600 chauffeurs devant moi. Et donc je faisais des onboardings au micro. Et donc très vite, le business a énormément grossi. Moi, j'y ai passé 4 mois, un peu plus de 4 mois, 5 mois. Et en partant, on faisait déjà plus de 100 000 rides par semaine. Donc, c'est vraiment une super expérience. Et après ça, je suis allé au Maroc, où là, j'ai lancé Casablanca d'abord, puis d'autres villes au Maroc. Et j'y suis resté en tant que patron des opérations pendant 2 ans.
Okay.
Avant ensuite de transférer, j'ai eu beaucoup de rôles chez Uber, j'ai eu la chance de voir beaucoup de business, beaucoup de pays. Je suis ensuite allé en Asie, à Singapour, où là j'ai dirigé les opérations à Singapour et en Malaisie pendant un an.
D'accord, ok. Ouais. Et là du coup tu as été piqué par le virus de la mobilité.
Exactement.
Et c'est ça du coup qui t'a amené à lancer Moto. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça a été quoi un peu la transition et le démarrage? Pourquoi tu as lancé la boîte? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il y a eu une étape intermédiaire de presque 3 ans entre Uber et Moto. Donc, quand j'étais chez Uber en 2018 en Asie, en fait, j'ai découvert les services de vélo en libre service. Typiquement, c'est des boîtes chinoises qui en fait avaient développé un système de vélo en partage. Donc, c'était l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui, le free floating. C'était les premiers opérateurs de flotte de vélo en libre service. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Uber, donc j'ai un peu connu les deux phases d'Uber. J'ai connu la phase d'hyper-expansion assez agressive où on lance beaucoup de marchés, on croît très vite. Et c'est assez grisant comme expérience. C'était ma première expérience en startup qui est très biaisée du coup parce qu'on voit, c'est des rythmes de croissance où tu fais du plus 1000% de semaine en semaine. Donc je pense qu'il y avait très peu de boîtes à l'époque. Il y en a aujourd'hui très peu qui ont connu les mêmes rythmes de croissance. Et donc dans mon esprit, c'était un peu ça, la startup. C'est de l'ultra-croissance toutes les semaines, tous les mois, on traquait nos chiffres tous les jours et c'était quasiment doubler la flotte de jour en jour. Et en fait, en sorte, et du coup, la deuxième phase d'Uber, qui était plutôt ma dernière année, où là, le patron d'Uber à l'époque, le fondateur, avait été sorti par le board, on préparait l'IPO, donc c'était plutôt une phase de rationalisation, de mise en conformité, etc., où on était plus sur des rythmes de croissance assez mesurés. Et en fait, j'ai été un peu... je voulais retrouver un peu cette première phase d'hypercroissance et donc j'ai décidé de rejoindre une entreprise qui s'appelle Ofo, qui était une entreprise chinoise qui faisait du libre service, du vélo en libre service. Il y avait beaucoup d'anciens d'Uber, un de mes anciens boss qui avait rejoint, en fait la personne qui m'avait recruté chez Uber avait rejoint Ofo et du coup m'avait recruté ensuite chez Ofo. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Ofo. Je me suis retrouvé patron de pays, j'étais patron de l'Espagne, j'ai été envoyé en Espagne à Madrid où là j'ai en fait diriger le marché était déjà lancé mais j'ai repris le marché et au fond ça a été une belle expérience au début. Après ça a été très compliqué parce que c'est une entreprise qui a pas su gérer son expansion, qui avait pas un super produit en tant que tel et qui surtout avait pas pris le virage de l'électrique. Donc c'était des vélos mécaniques en libre service qui étaient partout en Europe, ils étaient en France aussi, mais qui avaient pas su en fait prendre le virage de l'électrique et qui étaient restés sur du mécanique et qui finalement avait levé énormément de fonds, avait cru très très vite mais qui n'avait pas su gérer son expansion, gérer son développement et qui avait fini par fermer l'essentiel de ses pays. Donc j'ai fermé mon pays, ma géographie. J'ai dû faire un plan social en Espagne.
Okay.
On avait 80 personnes en Espagne à l'époque. C'était au bout d'un an. Et c'est à ce moment-là que j'ai été recruté par Bird. Bird, c'est un opérateur de trottinettes électriques. C'était le premier et le plus gros opérateur de trottinettes électriques qui a été monté en Californie en 2017. Et je les avais rejoints en tant que GM France, DG France. Où là, en fait, mon rôle, essentiellement, je suis arrivé après le lancement. Donc, Bird existait déjà.
Okay.
Et je suis arrivé juste avant l'appel d'offres, le grand appel d'offres qui avait été lancé par la mairie de Paris pour sélectionner 3 opérateurs. J'ai passé 2 ans chez Bird. C'était une belle expérience parce qu'on a testé plein de modèles opérationnels. On a pu tester beaucoup de modèles opérationnels. Quand je suis arrivé, on bossait essentiellement sur un modèle de ce qu'on appelait des gig workers. Donc en fait, c'était des personnes qu'on payait à la tâche pour recharger les trottinettes.
D'accord.
Donc c'était les travailleurs indépendants. Et quand je suis arrivé, et en vue de cet appel d'offres, on voulait transformer le modèle opérationnel. On a décidé de réinternaliser toutes nos opérations. Donc on a recruté une centaine d'opérateurs. Donc d'opérateurs terrain, donc des gens qui faisaient de la recharge de batterie, des techniciens en entrepôt qui faisaient de la réparation. Donc on est passé d'un modèle où on avait 4 salariés dans un petit entrepôt à plusieurs centaines de personnes qui travaillaient pour Bird. Donc ça a été intéressant un peu de vivre cette transition.
Ouais.
Et donc on préparait l'appel d'offres. Malheureusement, on n'a pas gagné l'appel d'offres pour plusieurs raisons. Et du coup, j'ai revécu mon deuxième plan social en 3 ans. J'avais fait le plan social en Espagne et j'ai dû travailler sur un plan social, un PSE en France.
Donc expérience un peu compliquée, j'imagine.
Compliquée, mais enrichissante et intéressante, évidemment. En fait, à chaque fois, ça a été de voir un peu des modèles s'étendre, se développer fortement, se stabiliser, puis finalement un peu dépérir. Et à chaque fois, en fait, sur ces deux expériences-là qui étaient très fortes, très intenses, en fait, qui étaient relativement courtes en temps, mais assez intenses en expérience, j'ai beaucoup appris.
Voilà, de ce que tu me décris, tu avais vraiment un premier socle en gérant les opérations de plusieurs boîtes dans différents pays, connaître l'hypercroissance. Effectivement, tu avais acquis une expérience assez relevant pour ensuite te lancer dans ce secteur.
Exactement. Et ça m'a donné le goût aussi de cette industrie qu'est la mobilité urbaine. En fait, en sortant, enfin, pendant que j'étais chez Bird, j'ai commencé à réfléchir un peu à la suite et avec d'abord cette envie d'entreprendre et de créer un projet. Ensuite, je voulais rester dans cette industrie. Parce qu'en fait, la mobilité urbaine, c'est un des gros problèmes de notre génération. Hein. Aujourd'hui, on a plus 60% de la population mondiale qui vit dans des villes. Et le sujet de la mobilité, en fait, c'est un besoin essentiel de se déplacer, parce que se déplacer, ça implique de pouvoir se rendre à son travail, de pouvoir en fait être libre. Et je trouve que c'est un problème qui a été délaissé pendant très longtemps parce qu'en fait, on s'est détourné du problème en construisant des villes, en concevant des villes qui étaient faites pour des voitures, avec des transports publics qui ont souvent des problèmes d'engorgement. Mmh. Et on arrive à un moment où il faut trouver des solutions viables et inclusives. Et je trouvais que l'approche de tous ces opérateurs de free floating, de micro-mobilité était intéressante, mais le modus operandi n'était pas le bon. Et du coup, je me suis posé très vite cette question de comment est-ce qu'on peut concilier un modèle inclusif et efficient et durable pour la mobilité et avec un modèle économique, une équation économique qui marche.
Ouais.
Et avec quel produit surtout. Et très vite, je me suis rendu compte que le vélo électrique, c'était un produit qui était intéressant, en fait, qui permettait de remplacer 80% de nos besoins de déplacement. Aujourd'hui, un vélo électrique permet de faire 80% des déplacements quotidiens. Et je me suis très vite posé la question de créer un projet autour du vélo électrique, mais quelle est la meilleure façon d'approcher ce mode de déplacement. Je me suis rendu compte que le free floating, en fait, c'était quasiment une équation économique insoluble et qu'il y avait énormément de difficultés à trouver un modèle viable qui tourne d'un point de vue économique, d'un point de vue financier. Et je me suis aussi posé la question de qu'est-ce qu'attendait l'utilisateur final. En fait, l'utilisateur final, il veut 2 choses. Il veut un produit qui est abordable, qui est fiable et qui, en fait, s'inscrit bien dans son mode de vie. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur cette idée de souscription. d'abonnement autour du vélo électrique.
Ok. Effectivement, je ne l'ai pas dit au début du podcast, mais je suis moi-même cliente des vélos moto. Donc, je suis d'autant plus contente de te parler aujourd'hui. Et effectivement, moi qui me suis convertie au vélo depuis déjà quelques années, le avant-après, notamment à Paris, Covid, ça n'a rien à voir en termes d'infrastructure, de vélo que tu vois sur la route. C'est le jour et la nuit.
Ouais, complètement.
Parce que oui, en fait, ma question aussi, c'était là, on est à quelle période de temps au lancement de moto? C'est avant, après le Covid?
Alors, j'ai quitté Bird en décembre 2020. C'était pendant le Covid. Et je me suis mis sur moto en janvier 2021. En tout cas, je me suis mis plein temps sur le sujet. La genèse de moto, alors d'abord... L'histoire, c'est donc je quitte Bird fin décembre. Je prends quelques jours de vacances, deux semaines de vacances. Je pars avec cette idée qui trottait en moi de créer un projet autour du vélo électrique, de la souscription. À partir de janvier, je reviens à Paris. Je pose mes idées sur un Word. Ensuite, je crée un deck. Je contacte toutes les personnes qui étaient, beaucoup de personnes que j'avais croisées au cours de mes expériences précédentes chez Bird, chez Uber, chez Ofo, etc., pour leur pitcher l'idée.
Ouais.
Je finis par lever des fonds très vite de par mon réseau.
Là, tu es seul à ce moment-là ou tu as déjà
j'étais
un
seul. Fonds okay. Ouais, j'étais seul. En fait, je lève des fonds sur un PowerPoint. Mais sur cette idée justement de souscription, j'avais les idées assez très claires dès le départ. Et c'est marrant parce que récemment j'ai ressorti mon tout premier PowerPoint que j'avais pitché. En fait, ce qui est moto aujourd'hui, c'était très très proche de ce que j'avais pitché à l'époque.
D'accord.
Donc j'avais les idées assez claires sur la direction que je voulais prendre.
Partie levée de fonds, t'avais déjà de l'expérience là-dedans?
Non. Non, okay. J'avais pas d'expérience. Du coup, je l'ai très mal fait sans doute. mais ce qui est bien, c'est que déjà, t'as énormément de littérature là-dessus, donc tu trouves beaucoup beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, il y a des modes de levée de fonds qui sont assez rapides. Donc à l'époque, j'avais fait un truc qui s'appelle un BSAR.
Oui.
En fait, un BSAR, c'est un format rapide de levée de fonds où t'as pas ce qu'on appelle un pack d'actionnaires, t'as pas toute cette paperasse administrative et surtout t'as pas la contrainte de fixer une valorisation de la boîte, ce que j'avais pas du tout fait à l'époque. Très mal et du coup ça m'a permis de lever en fait des fonds assez rapidement parce que c'est pas forcément une fin en soi et ça a jamais été une fin en soi pour moi de lever des fonds mais très rapidement je me suis dit qu'il fallait que je teste cette idée de la souscription et de l'abonnement.
Ok, donc là tu lèves des fonds mais t'as pas de produit.
J'ai rien. J'ai absolument rien, j'avais même pas de nom à l'époque. j'avais inventé un nom, j'avais appelé ça Bike Flex.
Ouais.
Ça faisait un peu Bike Netflix, etc. C'était très moche. D'ailleurs, à chaque fois que je pitchais, on me disait « Oui, mais il faut que tu changes le nom. » et du coup, j'ai changé le nom. J'ai trouvé un autre nom qui s'appelait... j'avais trouvé ça tout seul, j'avais Bloom à l'époque. Donc j'avais appelé ça Bloom. J'avais fini par lever des fonds, donc j'avais des super investisseurs qui m'avaient rejoint très tôt dans l'aventure, des gens que j'avais croisés chez Bird, des gens que j'avais croisés chez Uber. Donc j'avais levé des fonds, j'avais cette idée, j'avais un nom. Et du coup, là, je me dis, faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Il y avait tellement de sujets à traiter. Et donc la première personne que je contacte, c'est un garçon qui s'appelle Antoine Boutier, qui travaille avec moi chez Bird, qui était en charge des opérations chez Bird, avec qui j'avais beaucoup bossé, avec qui j'avais une super relation de travail. Et du coup, je le contacte, je lui dis, voilà, j'ai cette idée. Alors lui venait de quitter Bird et il se lançait, en fait, il commençait à réfléchir à un projet dans le food, donc un truc totalement différent.
Ouais.
Et je lui pitch l'idée de la solution de mobilité basée sur l'abonnement. Je lui dis que je viens de lever des fonds, j'ai cette idée. Est-ce que ça t'intéresse de me rejoindre? Ça, c'était en fin janvier. Et il décide de me rejoindre en février. Donc, on était tous les deux. On avait pris un espace, ça s'appelait le Green Space, dans le 11e. On avait un bureau, un coworking. Et on commence à se dire, maintenant, il faut qu'on trouve des vélos, il faut qu'on crée une marque et qu'il faut qu'on lance très, très vite pour valider le modèle, donc créer un MVP. Donc, on trouve un fournisseur de vélos en France. On lui achète 100 vélos connectés.
Comment tu trouves ce partenaire-là? Bah, écoute, donc là, c'est post-Covid.
C'était post-confinement.
Ouais, post-confinement, ouais, pardon.
Exactement. C'était en février-mars 2021, du coup.
Donc là, on se souvient que les appros, c'est quand même compliqué. Ouais. Comment tu arrives à trouver ce partenaire-là?
Alors justement, les appros, c'était hyper compliqué. Donc, on n'avait pas le luxe de trouver des gens qui n'avaient pas de stock. En fait, il fallait absolument trouver quelqu'un qui avait une flotte disponible. Donc, on trouve en fait un fabricant de vélos électriques qui avait déjà une offre de vélos électriques en free-floating.
Okay.
Et qui avait du stock disponible. On leur achète 100 vélos. Donc, on achète 100 vélos avec une... en fait, les vélos étaient déjà connectés. La tech était déjà dispo. Donc, l'idée, c'était de tester... deux choses. C'était tester ce modèle de souscription, ouais. De voir s'il y avait de l'appétence pour ce type de modèle. Et deux, c'était de tester les opérations. De voir est-ce que, en fait, de fournir d'offrir un service d'abonnement avec des réparations, ça faisait sens d'un point de vue opérationnel, ouais. Pour nous.
Et ce modèle d'abonnement-là, tu t'en es inspiré, la partie modèle vélo connecté également. Pourquoi un vélo connecté plus qu'un vélo simple, en fait? Comment t'en es arrivé là?
Alors, il y avait une double inspiration. La première, c'était le plus gros opérateur de vélos en abonnement au monde qui s'appelle Swapseats, ouais. Qui est aux Pays-Bas. Et en fait, eux, ils existent depuis 2014 et ils font du vélo mécanique en abonnement.
Ouais, je vois très bien. Avec les roues bleues.
Exactement, avec les roues bleues. Ils sont à Paris, ils existent à Amsterdam depuis 2014, à Paris depuis 2 ans, je crois. Et ils ont plus de 300 000 abonnés en Europe. Mais ils font essentiellement du vélo mécanique, c'est-à-dire du vélo non électrique, ouais. Sur abonnement. Eux, ils avaient plutôt une cible d'étudiants. À Amsterdam, tous les étudiants ont un vélo. Swapfit, ça coûte 15 euros par mois, donc c'est hyper accessible. Ouais. Et tout le monde a un Swapfit. C'est un peu le... T'arrives à Amsterdam, tu trouves un appartement et tu prends un Swapfit.
Tu prends l'abonnement.
Exactement. Okay. Donc ça, c'était une des inspirations. Et en fait, très vite, je me suis dit qu'il y avait, en fait, le vélo électrique connecté, en fait, marchait extrêmement bien avec ce modèle d'abonnement parce que ça, t'as cette barrière du prix. Un vélo électrique connecté de qualité, c'est entre 2500 et 3000 euros. Donc on s'est dit qu'en fait, l'abonnement, c'était une super façon d'approcher ce type de produit parce que ça permettait de fractionner le prix et de retirer la barrière à l'entrée. Ensuite, le problème du vélo électrique connecté, c'est que quand t'as une réparation à faire, t'as très peu de réparateurs qui acceptent de le faire. Parce que c'est souvent des pièces custom, les gens veulent pas toucher à l'électrique, à l'électronique du vélo. Et on s'est dit qu'en fait, le vélo électrique connecté, c'était génial parce que, en fait, t'as un super produit t'as des marques comme Vanmoof, on en parlera tout à l'heure, qui avait créé ce concept de vélo électrique connecté qui commence à exploser, ouais. Mais qui restait quand même très niche et réservé à une catégorie de personnes qui étaient quand même plutôt des CSP+, qui avaient les moyens de s'offrir un vélo à plusieurs milliers d'euros.
Ouais. Effectivement, t'avais Vanmoof, mais t'avais aussi Angèle qui commençait à arriver sur le marché et qui faisait beaucoup, beaucoup de marketing.
T'avais Angèle à l'époque aussi, ouais. T'avais plein de marques, t'avais Angèle, t'avais Vanmoof, t'avais une marque belge qui s'appelle Cowboy aussi qui faisait
ouais,
ça.
Bien sûr.
Donc tu commences à avoir pas mal d'acteurs, mais qui restaient sur des produits hyper exclusifs, ouais. Réservés à une certaine catégorie de la population, à plus de 3000 euros. Donc on s'est dit qu'il fallait concilier les deux, l'accessibilité de l'abonnement avec la qualité du produit et l'attractivité d'un produit connecté. Donc ça, c'était l'idée de base. Donc on achète nos vélos chez notre fournisseur en France. Là, on recrute une stagiaire qui on lance le service en fait en avril 2021. On fait un peu de presse, très vite on vend nos 100 vélos en 2 jours.
Comment t'as été chercher du coup tes 100 premiers utilisateurs?
Que de la presse.
Ouais. Okay.
On a fait que de la presse. J'avais la chance d'avoir rencontré pas mal de journalistes via mon expérience chez Bird. Du coup, j'ai recontacté tout le monde et en fait, on a eu un super article dans Le Parisien, on a eu un super article dans Les Échos, on a eu des articles dans... J'ai fait une télé, BFM TV, etc.
Okay.
Parce que, du coup, j'ai profité de mon expérience chez Bird pour pouvoir... leverager les contacts. Et en fait, ça nous a fait toute notre acquisition.
Okay,
la presse. On a eu un article au Parisien qui nous avait fait exploser les visites sur le site. Et du coup, on avait créé une liste d'attente. Et en 2 semaines, on avait 1500 personnes sur liste d'attente.
Incroyable.
Okay. Donc, on avait 1500 personnes. On avait 100 vélos. Hein.
Donc là, tu commences à constater en fait une première traction. Tu te dis, ouais, ça peut fonctionner.
Exactement. Très vite, on se dit, en fait, il y a un marché, il y a un vrai besoin sur ce type d'offres où les gens veulent pas être propriétaires des choses. Ouais. En fait, le vélo électrique, c'est un peu comme la voiture. C'est un objet qui se déprécie. T'as des sujets de remplacement de la batterie. En fait, à partir du moment que t'achètes un vélo électrique, tu perds de l'argent. En fait, c'est pas un bon investissement parce qu'il se déprécie au cours du temps et puis au bout d'un moment, tu dois le revendre. Donc, il y a plein de contraintes liées à la propriété et à la dépréciation de l'actif. Il y a plein de contraintes liées à l'entretien et à la durabilité du produit. Évidemment, c'est un produit que tu dois faire réparer. Faire réparer un vélo connecté, comme je disais, c'est compliqué de trouver le bon réparateur qui va accepter de le faire. Il y a un peu une opacité des prix. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais les réparateurs, ils avaient des listes d'attente de 3 semaines. Ouais. T'as dû le vivre chez Shift, mais ils ont en fait, il y a un vrai sujet de disponibilité, de fiabilité, de qualité des réparations. Et il y avait aussi un sujet de vol qui est énorme. Enfin, dans des villes comme Paris, il y a énormément de vols de vélos, notamment de vélos électriques. Donc les gens sont assez réticents à investir dans un vélo en sachant qu'il y a de fortes chances qu'il se fasse voler dans les.
C'est vrai que aujourd'hui j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux sur cette question-là, mais au démarrage, l'acquisition d'un vélo, même pour un vélo que t'as en leasing, la partie vol et entretien du vélo était un vrai sujet. Hein.
Ouais, totalement. Totalement. Nous, on avait fait beaucoup d'interviews utilisateurs avant de créer Bloom à l'époque, donc Moto. Et t'avais les trois choses qui revenaient systématiquement. Enfin, les deux choses qui revenaient le plus, c'était le vol et le prix. Pourquoi est-ce qu'on achète un vélo électrique? Parce que j'ai peur de me faire voler. Ou parce que c'est trop cher. Et les deux sont liés, hein. Parce que si t'investis 3000 euros dans un vélo électrique, tu le fais voler derrière. C'est quand même très, très embêtant. Et la réparation.
Ça me donne juste envie de revenir un tout petit peu en arrière. T'as dit que t'as fait des interviews utilisateurs. Tu les as fait à quel moment? Comment ça s'est déroulé? T'as appris quoi dans ces interviews? T'avais validé, invalidé des hypothèses?
On les a fait à toutes les étapes de création du projet. Okay. Je suis très friand du feedback utilisateur. Je pense que c'est essentiel. Je pense que même si tu fais très peu d'interviews utilisateurs, mais que tu fais des interviews longs où tu es capable de récolter beaucoup de data quantitative et qualitative. Moi, je pense que la data qualitative, elle est essentielle. Hein. C'est pas que du quanti. On n'a pas fait des interviews type sondage où tu envoies un sondage à une centaine ou un millier de personnes et tu as de la data, tu récoltes, etc. On a fait des longs entretiens où en fait on invitait des gens soit à boire un café ou à venir au bureau. Et on faisait des entretiens d'1 heure, 1 heure et demie où on avait une discussion. Donc c'était pas l'idée, c'était pas d'arriver avec un questionnaire ultra,
bordé
et... avec des questions précises, etc. Mais c'était vraiment une discussion de laisser les gens s'exprimer. Et du coup, ça nous a permis d'avoir beaucoup beaucoup de data intéressantes et beaucoup de data, de commentaires qualitatifs qui nous ont permis de penser d'abord le service, la manière de structurer le service. Typiquement, on avait une intuition. Et qui s'est invalidé au cours de nos entretiens et qui continue, en fait, qu'on continue d'affiner. On a toujours pensé que les gens préféraient que les réparateurs viennent chez eux, pour des raisons de confort et que t'es pas déplacé, etc. Mais en fait, au cours de nos entretiens, nos discussions, on s'est rendu compte que les gens préfèrent avoir la flexibilité de pouvoir passer chez un réparateur plutôt que d'avoir quelqu'un qui vient chez eux à une heure fixe, etc.
Donc d'avoir un lieu fixe.
Exactement.
Okay.
Donc ce type de choses, en fait, qui fait qu'on a amélioré notre compréhension des attentes des utilisateurs. Même sur le produit, on arrive avec plein d'idées préconçues sur la manière de designer le produit. On va en parler parce qu'on design nos propres vélos. La phase de design et d'idéation du produit, en fait, elle s'est faite en lien avec nos utilisateurs et nos futurs utilisateurs. Donc, on a vraiment co-designé ces vélos avec ce qu'on pensait être notre type d'utilisateur. Donc la phase d'entretien, elle est essentielle, elle continue de l'être. Aujourd'hui, on a un groupe d'utilisateurs, d'abonnés avec qui on échange régulièrement. Et à chaque fois qu'on veut lancer une nouvelle feature, à chaque fois qu'on veut améliorer le produit, en fait, on interagit avec ce groupe et on soumet l'idée. Et il y a une discussion qui se crée. Il y a plein de choses qui ressortent de cette discussion.
Trop bien. Nous, c'est effectivement, on conseille toujours aux entrepreneurs qu'on rencontre d'aller faire des interviews utilisateurs et d'aller rencontrer son public. Et c'est quelque chose qui est pas forcément instinctif au démarrage. On a l'impression. Il y a un peu ce réflexe d'envoyer des questionnaires, par exemple, qui sont souvent des questions assez binaires, oui, non, qui te permettent pas, en fait, de récolter de la donnée un peu qualitative que tu pourras réutiliser dans, typiquement, la conception de ton produit.
Totalement.
Du coup, la partie design du produit m'intéresse carrément. Moi, je les trouve hyper beaux, les vélos moto. Mais au démarrage, les vélos Bloom, je crois, donc du coup, sous le nom de la première marque, ressemblaient pas du tout à ça. Ouais. Tu peux nous décrire un petit peu ce à quoi ça ressemblait, si t'en étais satisfait, c'était quoi l'objectif d'avoir un peu une V1, en fait, finalement, ouais. des vélos que t'imaginais différents à long terme?
Ouais. Alors, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était, au lancement, c'était de tester le service de souscription.
Okay. Pas le vélo en tant que
pas le vélo. Donc en fait, concevoir, faire développer un vélo, ça prend énormément de temps, ça demande des ressources aussi. D'abord, si je reviens un peu en arrière, on m'a souvent posé la question de pourquoi est-ce que vous utilisez pas les vélos d'autres marques en marque blanche ou des marques. Pourquoi est-ce que vous opérez pas un service de cobaye en abonnement par exemple, etc. En fait, moi très très vite j'ai décidé de partir sur un vélo custom, donc un vélo qui est designé par Nosron, qu'on a conçu nous-mêmes pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme ce service d'abonnement, ce modèle d'abonnement, il est nouveau, il est innovant, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de produit hardware qui correspondait à ce modèle. En fait, donc il fallait le créer, il fallait le penser. Ensuite, il y a un vrai sujet de réparabilité du vélo et de, en fait, si tu conçois ton propre vélo et que tu fais toi-même ton sourcing de pièces, de composants et que tu connais le vélo en fait par cœur, t'es la personne, en tout cas l'opérateur le plus à même de réparer ce vélo. Donc ça, il y avait aussi une contrainte opérationnelle. Et enfin, le dernier point, c'est que très vite, on s'est dit qu'on voulait créer une marque de mobilité, une marque différenciante et différenciée de mobilité, et que le produit, donc qui est au cœur du produit, qui est au cœur du service, en fait, c'était le cœur de notre marque.
Et devait être différent du coup de ce que
exactement.
Voyaient les personnes. Ouais.
Notre ADN, c'est notre produit physique, et il fallait qu'on conçoive un vélo propre pour qu'il soit, qu'il fasse l'ADN de notre marque moto.
Okay.
Voilà, donc ça a été hyper important dès le départ de se dire que l'objectif, c'est d'avoir un vélo full custom moto, donc qui a été vraiment conçu de A à Z par moto, mais il y a des étapes intermédiaires. Tu peux pas démarrer en chambre et te dire je vais concevoir mon vélo et je vais m'y mettre pendant 24 mois et je fais rien pendant 24 mois. Ouais. Il y en a qui le font, hein. Je pense qu'Angèle, ça a été le cas.
Maintenant.
Il y a plein de boîtes qui le font. Et je parle pas avec le monde extérieur, je conçois, je design mon vélo. Une fois que mon vélo est prêt, qu'il est designé, je le mets sur le marché et je vois comment les gens le reçoivent. Non, nous on s'est dit on va le faire de manière itérative. On va démarrer par un vélo qui est pas du tout de notre fait, qui est pas du tout de notre design, qui n'est pas du tout de notre conception. Donc on a acheté un vélo off the shelf sur l'étagère et on s'est dit on va tester le modèle de la souscription.
Même si c'était pas le vélo parfait, effectivement, que t'imagines.
C'était loin d'être le vélo parfait. C'était pas du tout le vélo parfait. Alors c'était un bon vélo qui a fait le boulot pour ce qu'on voulait faire, qui nous a permis d'apprendre énormément de choses des attentes.
Et tester ce dont vous aviez envie de. Ouais.
Et aussi de récupérer de la data tangible sur. Sur le design du vélo, enfin de notre vélo à nous. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour créer le meilleur vélo possible. Donc étape 1, on achète un vélo off the shelf qu'on propose en modèle d'abonnement. Étape 2, on se dit ok, on lève des fonds, on relève des fonds du coup sur base de ce pilote en se disant bah maintenant on se lance dans le développement de notre propre vélo de ce que sera moto. On savait même pas que ça s'appelait moto à l'époque. On crée une marque, on monte une équipe, on crée une tech, on réinternalise notre tech, on réinternalise la conception du vélo, on construit une infrastructure d'opération ou de réparation qui est fiable. Et on lance, on pose la première pierre de l'édifice que sera ensuite moto, ce qu'est moto aujourd'hui.
Et cette levée de fonds, elle a été compliquée. Comment est-ce que tu l'as gérée? Vous êtes arrivé quand même avec des preuves en disant que voilà, le marché, que ça allait fonctionner. En tout cas, la première version.
Alors, je pense qu'une levée de fonds, c'est toujours compliqué. Ça l'a été, ouais, ça l'a été. Nous, on est sur un produit hardware, donc qui est pas forcément, en tout cas en France, un sujet qui plaît énormément au modèle type VC. On a trouvé de super investisseurs. On a été, très chanceux de tomber sur des gens qui déjà étaient très sensibles à cette idée de marque et de communauté autour d'un produit. Et qui ont vu le potentiel de ce modèle de souscription, qui ont cru dans l'équipe aussi. Donc on a levé un seed avec des investisseurs. On a eu c'est un mix de VC et de business angel.
Ok.
Et du coup, on s'est mis sur le.
Et ouais. Pour cette levée, ouais, comment t'as été chercher tes investisseurs? C'était des investisseurs que t'avais déjà contactés pour ta première levée, des contacts que t'avais dans le secteur de la mobilité par tes précédentes expériences?
Non, c'était pas des gens qui étaient sur ma première levée. Alors, il y a certains business angels qui ont réinvesti au moment du seed. Ça a été essentiellement des gens, c'était de la recherche. J'ai essayé de trouver des gens qui était en phase avec cette idée de création de marque, ouais, et de communauté. Donc j'ai plutôt tendu vers des investisseurs qui avaient dans leur portefeuille des marques fortes, avec des produits ou qui ont créé des fortes communautés très engagées vis-à-vis du produit. Donc ça a été un peu mon angle pour cette levée là. Et du coup ça a été, enfin j'ai contacté des gens, j'ai demandé des, enfin j'ai vu si j'avais des relations en commun avec certains des investisseurs, et à chaque fois c'était des intros. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'était passer par des entrepreneurs qui étaient déjà dans le portefeuille des investisseurs.
D'accord.
Donc de contacter des entrepreneurs et leur demander d'abord comment se passait la relation avec l'investisseur en question, et leur demander une introduction.
Ok.
Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc on a une fois que cette levée de fonds a été bouclée, on a commencé à recruter une équipe. Alors la première personne qui nous
parce que jusque là vous étiez trois en fait.
On était trois.
Deux cofondateurs et une stagiaire.
Exactement.
Okay.
Exactement. Et donc
pour gérer une flotte de
100 vélos.
De 100 vélos.
Ouais, de 100 vélos.
Au niveau des opérations, ça se passait comment?
Ça se passait bien. Ça se passait très bien. En fait, la chance qu'on a eue, c'est que le vélo était très robuste. Donc on n'avait pas vraiment de sujet de réparation. Il y avait des sujets de réparation. On avait des mécaniciens. En fait, on avait des mécaniciens intérimaires qui travaillaient avec nous. Mais en fait les réparations, on a pas eu de sujet majeur d'opération. On a mis en place un système de récupération de vélos, on a mis un système de réparation via des partenaires intérimaires, etc. Mais comme c'était à toute petite échelle, il y avait pas de sujet de réparation d'opération.
Et tu parles aussi beaucoup de communauté, et je sais qu'à ce moment-là, la communauté Bloom avait l'air d'être assez forte pour avoir eu des amis qui ont utilisé ton vélo au tout démarrage. Ils adoraient le vélo, ils envoyaient des stories, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à créer un peu cette communauté et cet aspect un peu fédérateur autour du vélo?
Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a un vrai, je pense qu'il y a un peu plus de la moitié de nos abonnés Bloom qui sont toujours abonnés moto aujourd'hui. Donc ils sont passés du Bloom au Moto One
hyper
et maintenant
fidèle,
au Moto2,
ouais,
hyper fidèles. D'ailleurs ils sont restés au prix Bloom de l'époque, hein, qui était beaucoup plus faible. Je crois qu'on était à 49 euros par mois à l'époque,
ouais.
Et ils sont ultra fidèles, hyper engagés. C'est des gens qui en fait nous donnent du feedback tout le temps. C'est des gens qui ont en partie construit moto avec nous, parce que enfin c'est des gens qui sont très engagés avec le produit, qui ont vécu un peu toutes les transformations du service, du produit, de la marque, qui nous ont fourni du feedback régulièrement et qui en fait sont restés avec nous tout le long du projet. Et donc ça c'est vraiment,
c'est presque un peu des ambassadeurs en fait de
complètement
Tamar.
Ouais, c'est des gens qui ont en fait parrainé énormément de gens, de nouveaux abonnés, et c'est notre cœur, notre noyau dur d'utilisateurs qui ensuite a grossi et qui a permis de d'atteindre plusieurs milliers d'abonnés aujourd'hui. Mais en tout cas on est vraiment parti de ce noyau dur, on a fait en sorte d'interagir avec eux régulièrement, on a fait des événements régulièrement, on les a invités dans nos ateliers au bureau pour échanger, enfin voilà, il y a toujours eu des échanges avec ces utilisateurs, on a toujours fait en sorte de rester très très proche d'eux. On les connaît tous par leur nom évidemment, on les voit régulièrement. Enfin, c'est super d'avoir ce cœur, ce noyau dur d'abonnés.
Trop bien. Donc là du coup vous relevez des fonds, vous avez envie de développer cette fois-ci votre propre produit, d'internaliser la tech, etc. Comment ça se passe?
Alors on part sur cette idée de réinternaliser la tech, donc de créer toute notre infrastructure tech, que ce soit notre app utilisateur ou notre app opérateur, etc. en interne, et évidemment de créer notre propre vélo. Donc on est rejoint par notre troisième associé qui s'appelle Pierre-François de Rouget, qui est un ancien Doctolib, donc qui quitte Doctolib, il était dans l'équipe d'ingénieurs de chez Doctolib, il nous rejoint en tant que CTO et troisième associé chez Moto pour justement créer la tech. Donc la tech, on va en parler, c'est essentiel dans notre produit. Elle nous permet d'interagir avec nos utilisateurs. En fait, c'est l'interface avec nos abonnés, parce que c'est un vélo connecté qui est verrouillé, déverrouillé via une application. La tech nous permet aussi de gérer notre flotte, gérer nos opérations, d'interagir avec nos partenaires. Enfin, c'est vraiment la pierre angulaire de ce qu'on fait. Et on a été rejoint par une quatrième personne très vite qui s'appelle Hugo, qui lui vit à Amsterdam, qui est designer industriel. Donc il a fait 7 ans d'agence en design. Il a designé plusieurs centaines de vélos. Donc c'est quelqu'un qui que j'ai rencontré en fait par hasard au cours de mes expériences et qui à partir du moment où j'ai décidé de me lancer sur un projet de vélo électrique, c'est la première personne que j'ai contactée pour lui dire reste au chaud, dès qu'on se met dans le design, je t'appelle et tu nous rejoins. Et ça, c'était assez. En fait, j'avais contacté déjà quand j'étais chez Ofo, donc 3 ans avant. Et 3 ans plus tard, je vais dîner avec lui. Je dis écoute, on y est finalement, j'y suis. On va designer notre vélo. Et il nous a rejoint directement en tant que designer. Et on s'est mis sur le design d'un vélo moto en parallèle. Enfin. Ça s'appelait toujours Bloom à l'époque, mais on a décidé de créer une marque. Donc on a bossé avec une agence, une super agence de branding. Très tôt, on voulait créer une marque lifestyle qui s'inspire des codes de la mode. Donc on est allé chercher une agence de brand en fait qui faisait beaucoup de marques de mode, qui avait notamment la marque Cézanne, ce genre de choses, qui était à Amsterdam aussi. En parallèle, donc on crée une marque, on travaille sur notre marque. On commence à bosser sur notre tech et on commence à bosser sur notre design de vélo. Donc, on fait les trois en parallèle. Antoine, en parallèle, commence à créer un réseau de réparateurs, donc de créer notre modèle de réparation. Donc, on passe 12 mois à créer tout ça. Donc, exactement 12 mois plus tard, on lance notre moto 1. Donc déjà on lance la marque moto parce que qu'on avait créé entre temps. On lance ce qui est le Moto One. On lance notre tech et en fait on est très vite passé à 1000 abonnés sur le Moto One. Ça s'est fait très très vite. On a toujours été en rupture de stock. On a lancé ça en pleine crise de supply chain en Chine parce que l'essentiel de nos composants viennent de Chine. Donc on a vraiment vécu toutes les phases où on a vécu toutes les difficultés possibles et imaginables à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait des grosses crises de transport. Donc en fait il y avait des sujets de bateaux qui partaient pas, enfin qui partaient pas au bon moment, qui restaient bloqués dans les ports. On a eu un souci avec un bateau qui restait au port, qui restait bloqué parce que je sais pas si tu te souviens au canal de Suez, il y avait un bateau qui avait bloqué le canal de Suez pendant une semaine, donc ça avait créé un énorme goulet d'étranglement. Donc on a été victime de ça.
Et là du coup tu dis que t'as tous tes vélos qui sont bloqués dans un bateau,
dans un conteneur. Toi t'as déjà des abonnés qui attendent, qui sont préinscrits, etc.
Donc, c'est retard de livraison, j'imagine, pour ces clients-là.
Alors, retard de livraison, c'est le moment où tu avais du stop and go, confinement en Chine. Donc, en fait, nous, on a... ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vélo, c'est 150 pièces. C'est plus de 150 pièces, donc 150 fournisseurs qui sont essaimés partout en Chine, partout en Taïwan, etc. Sauf que, au moment où on lançait la fabrication de nos vélos, c'est là où le Covid avait explosé en Chine.
Parce que l'usine d'assemblage, elle est où? Elle est en Asie
Portugal.
Ou elle est au Portugal?
Ouais. D'accord. Elle est au Portugal, mais tous nos composants, les fabricants des composants sont en Chine pour l'essentiel. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, t'as pas d'industrie du vélo en Europe, t'as personne qui fabrique des moteurs, t'as personne qui fabrique des freins. 100% de l'industrie est en Chine aujourd'hui, ou 95% de l'industrie est en Chine. Et du coup, c'était au moment où on avait en fait le Covid explosé en Chine. Il y a des confinements en stop and go, donc on avait d'un coup, notre fabricant de cadres qui fermait, du coup il rouvrait, mais à ce moment-là notre fabricant de freins fermait. Ensuite nos fabricants, enfin c'était vraiment, on avait des mauvaises nouvelles tous les jours. Ça a été très dur parce que on n'avait pas de visibilité. On essayait de, en fait, on naviguait vraiment à vue au jour le jour, et on avait des mauvaises nouvelles qui tombaient tous les jours. On a réussi finalement à lancer notre service, nos vélos.
J'imagine que tu devais aussi commander toutes ces pièces-là, donc peut-être des gros sujets de BFR aussi.
Absolument, ouais. Tu commandais tout, en fait, tu payais tout en amont. Donc il y avait des vrais sujets de BFR, il y avait des vrais sujets de qualité aussi, parce qu'on pouvait pas être sur place, on pouvait pas contrôler la qualité sur place, donc on n'a pas pu se rendre sur place à l'usine. On a travaillé avec un intermédiaire. On a eu la chance de tomber sur un très bon intermédiaire en Chine qui nous a beaucoup aidé.
Qui connaissait tous les fournisseurs, qui
faisait le tour de Chine, le tour des fournisseurs pour aller contrôler la qualité, contrôler les vélos. Mais il n'empêche qu'on a eu beaucoup de sujets de qualité à l'arrivage des vélos à Paris qu'on a dû régler. On a dû recréer une mini chaîne d'assemblage à Paris, donc ça a été un vrai sujet. Donc il y a eu beaucoup d'enjeux opérationnels, d'enjeux hardware pur qu'on a surmonté, mais qui ont en fait qui ont retardé notre lancement, qui ont mis en difficulté nos lancements, etc. Et en fait, ça, ce vélo, donc c'était le Moto One qu'on a lancé en avril, qui a eu un super succès. Les gens ont adoré le vélo. On a créé la marque. On a eu un super, super accueil de la marque, du service.
Ouais, je confirme, le vélo est très cool.
Donc ça, t'es une de nos premières abonnées, je pense.
Ouais, exactement. C'est vrai que dès que le Moto One est sorti, je pense que je l'ai acheté, enfin, je l'ai pris en abonnement très, très rapidement. Et c'est vrai qu'il est vraiment, top.
Ouais. Le vélo est top, mais dès son lancement, moi, je voyais déjà tous les défauts. Évidemment, quand tu crées un produit, tu vois que
tu vois
tous les défauts. Donc, au moment où on a lancé le Moto One, au moment où on s'est mis dans la conception, si tu veux, le développement du vélo, on a été très contraint par la disponibilité des composants, la disponibilité des parce qu'en fait il y avait une crise de composants à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était hyper dur de sourcer en tout. Tout le monde voulait fabriquer des vélos électriques. C'était vraiment
En fait, à ce moment-là, t'avais l'impression que le vélo électrique avait le vent en poupe et que c'était, t'avais une traction de dingue sur le marché. Mais à côté de ça, tout ce qui était approvisionnement, construction du vélo, etc., c'était un enfer pour toutes les marques.
En fait, d'un côté, la demande a explosé pendant le Covid, littéralement explosé. Tout le monde voulait un vélo électrique. Je sais pas si tu te souviens, mais tous les magasins étaient en rupture de stock. Il y avait des retards de livraison de 12 mois, 24 mois, 36 mois.
Ouais, je me souviens.
Et en parallèle de ça, donc explosion de la demande, mais comme il y avait eu des confinements en Chine et comme l'industrie du vélo est en Chine, il y a eu un retard, un backlog de manufacturing qui a été énorme et qui en fait a mis beaucoup de temps à rattraper. Et donc toutes les marques de vélo ont souffert de ça. Il y a des marques qui ont fermé carrément leur production, qui n'ont pas pu livrer pendant 36 mois. Et du coup, donc nous, on a été très contraints dans la conception du vélo avec, on a dû designer et concevoir avec les composants qui étaient disponibles. Donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait au départ. Donc en designant le Moto One, on pensait déjà à la prochaine génération, à la prochaine version de vélo. Donc on a lancé le Moto One qui a rencontré un franc succès. Et très rapidement, on s'est lancé dans le développement du Moto Two, qui là était vraiment une conception. Et en tout cas, un design 100% custom, où on a vraiment fait on a sourcé les composants qu'on voulait, on a dessiné le cadre exact qu'on voulait, on a vraiment fait le vélo dont on rêvait et qui était le plus adapté à ce qu'on fait, et qui est le Moto 2 qu'on a lancé en juillet dernier.
Et c'est vrai que la différence entre le Bloom et le Moto One, elle est énorme. Enfin, les deux vélos n'ont rien à voir. Le Moto One et le Moto 2 se ressemblent un petit peu plus, mais effectivement, tu vois quand même un vrai gap en termes de design, notamment en tout cas d'extérieur pour une utilisatrice, qui est assez impressionnant.
Ouais.
Et c'est un bel exemple aussi, je trouve, de lancement de produit qui est pas forcément parfait, mais que tu vas aller tester sur ton marché, itérer pour aboutir à une version qui te satisfait vraiment et qui correspond à tes utilisateurs et à ce qu'ils recherchent.
Ouais, totalement. Je pense que l'itération l'itération rapide et le changement incrémental, c'est-à-dire de pas changer totalement ton produit à chaque fois et du coup de scaler, entre guillemets, ton produit très vite, c'est important parce que si tu lances un produit qui est imparfait, à petite échelle, et qui a un défaut majeur, par exemple dans le produit. Ben si tu lances le produit à grande échelle, le défaut il est démultiplié par x milliers. Et à l'échelle, quand tu lances un produit hardware, c'est extrêmement difficile de corriger un problème. C'est pas du software, tu peux pas faire un update over the air d'une feature ou de ton software. En fait, tu dois rappeler tes vélos, tu dois reconcevoir, tu dois ressourcer. Enfin, c'est infernal.
Avec Moto, t'as un peu ce double enjeu où t'es à la fois sur des sujets pour le hardware et à la fois sur du soft, donc tu dois mêler un peu les opérations, les runs et tout sur ces deux sujets-là à la fois, quoi.
Complètement. Et le hardware, en fait, la difficulté du hardware, c'est qu'un changement d'une feature hardware, en fait, ça prend énormément de temps. C'est des laps de temps qui sont beaucoup plus longs que dans le software. Tu vois, concevoir, développer et industrialiser un vélo, ça se fait en minimum 18 mois. Donc c'est ça aussi, c'est un learning important pour moi. C'est un métier, ou en tout cas c'est une industrie, il faut beaucoup de patience et il faut accepter de faire les choses bien et prendre le temps de faire les choses très tôt plutôt que de vouloir lancer à tout prix. D'ailleurs, toutes ces boîtes qui ont lancé des trottinettes électriques, des vélos en libre service, etc., ont beaucoup souffert de cette rapidité et de cette inadéquation des produits qui fait qu'à échelle c'est catastrophique, parce que si t'as 10 000 vélos dans les rues qui ont tous le même problème et qu'il faut tous les rappeler, ça peut faire couler une boîte.
Ouais.
Donc nous, on a voulu commencer plus petit, faire les choses par étapes et itérer très rapidement plutôt que de lancer très vite une flotte importante de vélos qui pourraient rencontrer difficultés. Donc c'est pour ça que le Bloom dont je te parlais, c'était 100 vélos. Le Moto One, on était un peu plus d'un millier de vélos. Et l'itération du Moto Tool, on est sur une flotte plus importante, mais on est déjà sur un produit beaucoup plus mature,
ouais.
Sur lequel on a corrigé énormément de choses.
Ouais, complètement. Ouais. Ok, hyper intéressant. Vous en êtes où là au niveau du donc, développement du Moto Tool fini? C'est quoi un peu les prochains enjeux là pour Moto?
Ouais, donc là on est on a lancé le Moto Tool en juillet dernier.
C'est récent, ouais.
Ouais, en juin dernier. C'est un vrai hit là le vélo. Les gens adorent le vélo. On est évidemment je suis très biaisé, mais le vélo est,
je trouve le vélo
génialissime. On a réussi à corriger. Tous les défauts qu'on avait sur la première version, notamment sur la batterie. En fait, une des premières frictions ouais. pour l'abonné, c'est tout le processus de recharge de la batterie. Donc, la manière dont tu retires la batterie du vélo, dont tu le recharges, le transport de la batterie, etc. Donc, on a breveté un système de batterie qui est ultra efficient, qui est peut-être le meilleur système de batterie aujourd'hui sur le marché parce que il est totalement seamless. La batterie est très légère et toute petite et le système d'extraction de la batterie du vélo est hyper simple. Donc, ça, on en est assez fiers. On a passé beaucoup de temps dans le développement de ce système et on se rend compte que ça plaît énormément à nos abonnés. On a passé beaucoup de temps à designer l'identité, en fait, ce qui fait l'identité d'un vélo, c'est son cadre essentiellement. Donc on est sur un cadre avec des lignes très pures, j'ai pas le mot, mais flush, c'est-à-dire avec des transitions de soudure en fait qui sont pas du tout apparentes. Donc un vélo qui fait très très minimaliste,
plus abouti, ouais.
et totalement abouti, et en fait qui est très reconnaissable aussi parce qu'il y a une dimension de viralité de ce produit. Plus t'as de vélos dans la rue, plus il est visible, t'as un mécanisme de croissance organique qui se met en place, donc ça c'est important. Et puis mine de rien, on se rend compte que le vélo ça devient aussi quasiment un accessoire de mode, c'est un peu statutaire, un peu comme ton sac, ta voiture, bah, ton vélo électrique, c'est important qu'il te ressemble, qu'il te plaise.
Tu commences à avoir des vélos dans la rue qui ressemblent quasiment à des motos là pour
exactement.
Le coup, et tu vois des modèles beaucoup plus aboutis en termes de design.
Totalement.
Et qui sont très originaux.
Ouais. Et puis on opère aussi dans un marché où l'esthétique est très importante à Paris. Donc on sait que ça c'est un point différenciant. On a beaucoup de nos abonnés qui viennent parce qu'ils sont attirés par la marque, pas même par le vélo, mais juste la marque leur plaît, l'univers de la marque, les messages de la marque leur plaisent et ils se disent je me retrouve dans les codes de la marque. Ensuite j'ai découvert votre produit et j'adorais le produit et ensuite je découvre le service. Donc il y a des gens qui viennent plutôt par la marque, découvrent le produit et le service, et t'as des gens qui viennent par le produit, découvrent la marque et le service, ou t'as des gens qui rentrent par l'angle service, qui se disent en fait moi j'ai eu un vélo électrique, je me suis fait voler, ou j'ai eu plein de galères de réparation et du coup j'ai plus envie d'avoir affaire à ça et je viens chez vous pour le service. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme nous on est vraiment une offre 360 et totalement intégrée, on arrive à répondre à plein de besoins. Que ce soit un besoin purement produit, un besoin purement marque communauté ou un besoin purement service. Et aujourd'hui, on se rend compte que la solution plaît énormément.
Ok. Là, aujourd'hui, vous êtes sur Paris
ouais.
uniquement. Des développements dans d'autres villes à venir ou c'est pas un sujet à court terme?
Ouais, totalement. Alors aujourd'hui, on a une flotte, une grosse flotte d'abonnés à Paris. Hein. On a plusieurs milliers d'abonnés. Donc l'idée c'est de continuer de grossir notre marché ici. C'est un marché qui croît énormément, avec plus en plus d'infrastructures, avec de plus en plus de nouveaux entrants dans ce marché, c'est-à-dire de nouveaux accédants au marché du vélo électrique. Et on se rend compte que l'abonnement c'est un super modèle pour aller targeter les néophytes, des gens qui sont pas certains de vouloir acheter un vélo. Il y a eu plein d'éléments macro qui viennent en fait nous aider dans notre développement, par exemple l'interdiction des trottinettes il y a quelques semaines. Et donc Paris qui reste notre priorité. Là on a l'ambition de lancer d'autres villes en France assez rapidement. Donc on regarde des villes comme Lyon, comme Bordeaux, qui sont des villes hyper adaptées au vélo. Et dans un second temps, mais pas tout de suite, aller à l'international, d'autres villes, d'autres marchés européens.
Ok. Tu parlais des trottinettes, donc je vais en arriver sur des sujets un peu plus d'actualité, mais je sais que Vanmoof a fait banqueroute récemment. C'est quoi un peu ton analyse, les learnings que t'en tires pour Moto, et qu'est-ce que ça a généré en fait sur le marché de la mobilité de manière générale?
Ouais, alors Vanmoof, donc c'est une des marques leaders du vélo électrique connecté. C'est un peu l'inventeur de ce vélo électrique connecté premium, design totalement intégré. Ils sont hollandais, ils existent depuis longtemps. Hein, Vanmoof, ça fait 20 ans, je pense qu'ils existent. Et donc, effectivement, il y a eu une faillite retentissante récemment de Vadmoof, et qui s'explique selon moi par plusieurs choses. La première, c'est que, en fait, ils ont créé un super produit, hyper sophistiqué, totalement custom. Donc, Vadmoof, ils vont très très loin. C'est une boîte de designers créée par des designers. Donc, ils vont très loin dans le design et la conception de toutes les pièces du vélo. Et donc, ils ont, plutôt que s'appuyer sur un réseau de fournisseurs de composants préétablis avec des marques connues, etc., ils ont décidé de tout refaire eux-mêmes. Donc, ils sont allés jusque designer le moindre boulon, moindre vis dans le vélo, ce qui fait qu'ils ont créé un système totalement fermé, un peu à la iPhone, et qui devient très difficilement réparable. Donc, eux, ils ont un vrai sujet de service après-vente où c'est les seuls à pouvoir réparer leur vélo. Et ce qui fait que quand t'as un Vadmoof et que t'as un problème sur ton Vadmoof, seul Vadmoof peut réparer ton vélo. Donc ça a créé un vrai goulet d'étranglement par rapport à la service. Et c'est aussi très déceptif pour les acheteurs Vadmoof parce que tu payes un vélo très cher et souvent, tu dois attendre 2-3 semaines pour faire réparer ton vélo. Donc ça, c'était le premier point. Leur incapacité à gérer le service après-vente de leur vélo. Je pense que le deuxième sujet, c'est que c'est une boîte qui a levé beaucoup de fonds récemment, qui a levé plus de 150 millions, je sais plus combien, et qui du coup a cru très vite, qui a des charges de structure, donc charges fixes qui sont très importantes. Ils ont plusieurs centaines d'ingénieurs, plusieurs centaines de marketeurs, etc. Mais les ventes et les livraisons de vélos n'ont pas suivi, donc ils n'ont pas pu en fait absorber ces charges fixes, et du coup ils étaient pas rentables, donc ils se sont retrouvés à devoir repartir en levée de fonds. Ils n'ont pas réussi à lever des fonds parce qu'évidemment le marché s'est retourné, ce qui en fait, je pense, que la combinaison de ces deux éléments fait que Vadmoof a fait faillite.
Ok. Du coup, pour Moto, c'est quoi un peu les learnings que t'en tires?
Deux learnings. Le premier, c'est trois learnings. Le premier, c'est dans la conception de la solution, du service. Donc, nous, on a d'abord pensé au service et on a créé un produit adapté au service. Donc on a d'abord commencé à penser à ce service d'abonnement et à la service, la réparabilité, l'opérabilité du produit. Et ensuite, on a créé un produit qui s'insérait parfaitement dans le service. Donc on a pris l'approche un peu différemment. Vadmoof a commencé par le produit et ensuite, sur le tard, s'est posé la question du service. Nous, on s'est dit, en fait, non, la mobilité, c'est une économie de service. Donc pensons au service, pensons à la manière dont on va opérer cette flotte et on crée un produit qui est adapté à ce service-là. Donc ça, ça a été le premier learning. Le deuxième, c'est dans la conception du produit. Nous, ce qu'on conçoit dans notre vélo, c'est essentiellement la partie cadre, donc le châssis du vélo. Tous les composants qu'on met sur notre vélo, c'est des composants de marques extrêmement connues qui existent depuis plusieurs dizaines d'années et qui sont des fournisseurs extrêmement fiables. Donc on n'est pas allé réinventer la roue entre guillemets, sans vouloir faire des jeux de mots. On est parti sur des composants qui étaient hyper connus, hyper fiables et qui marchaient très bien. Donc il n'y avait pas ce risque d'approvisionnement, il n'y avait pas ce risque de réparabilité du vélo.
Okay.
Et le troisième learning, c'est en fait, c'est de bien faire les choses, de se concentrer sur le produit, sur la qualité de l'expérience client, de se concentrer sur la rentabilité de chaque abonnement qu'on vend. Donc ça, c'est les économies unitaires, hein, les unités économiques, faire en sorte que chaque abonnement qu'on vend est rentable et le faire à petite échelle et ensuite grossir progressivement.
Ouais. Pas se brûler les ailes à vouloir aller trop vite, à lever des millions et
Exactement.
Ok. Peut-être une question un peu plus personnelle, mais qu'est-ce que ça a engendré chez toi pour de devenir entrepreneur en fait? Est-ce que il y a eu des changements dans ta vie? Est-ce que c'est quoi un peu l'impact aussi pour les gens qui nous écoutent de devenir entrepreneur?
Ouais, je pense que il y a plein de mythes. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on me disait avant. Qui ont été vérifiés, d'autres qui l'ont pas. On me disait souvent avant que je devienne entrepreneur, tu verras, ça prend énormément de place dans ta vie, ça t'y penses tout le temps, t'y réfléchis tout le temps et ça devient vraiment c'est au cœur de ton existence en fait. Et effectivement, ça c'est un truc que j'ai vérifié. t'as une charge mentale permanente que j'ai jamais eu parce que t'as un vrai sens de tu portes le projet, t'as un vrai sens de responsabilité vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis de tes investisseurs, vis-à-vis de ton équipe, vis-à-vis de ton entourage aussi parce que il y a enfin tu vois je sais que ma compagne il y a des vrais sacrifices, il y a des moments où t'es dans le dur, il y a des moments où t'es vraiment tout en bas du cycle
tu portes le projet et tu peux pas être
donc il y a une je pense que ça c'est un truc qu'on m'avait dit mais que je vérifie vraiment, c'est la charge mentale et je pense que c'est pas négligeable, il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien, moi je le vis par phase, il y a des moments où je le vis extrêmement bien parce que je trouve que c'est très gratifiant ce que je fais, le voir des utilisateurs, de croiser des gens à moto dans les rues, moto-vélo dans les rues, de pouvoir échanger avec des utilisateurs,
ça fait un truc à chaque fois que tu vois des
gens, c'est génial, enfin tu vois c'est très gratifiant de pouvoir voir des gens utiliser le produit et te dire que le vélo est super, que le service est top, etc. Mais il y a aussi des moments très durs où, tu vois, quand tu traverses une grosse crise de supply chain, quand tu n'arrives pas à lever des fonds, quand tu as des clients qui sont mécontents, quand tu as des employés qui partent, etc. Tout ça, c'est des... Donc, je pense que cette charge mentale, elle est réelle et qu'il faut... Enfin, voilà, il faut vivre avec, il faut l'accepter et il faut réussir à s'en... essayer de s'en décharger au maximum et essayer de prendre du recul.
Oui.
Le truc que j'ai pas vérifié, qu'on m'a dit, mais que je pense, qui est pas forcément vrai, c'est, tu verras, c'est un sprint, faut aller très vite, faut recruter très vite, faut grossir très vite. Moi, je pense réellement que c'est un marathon, même si on tombe dans les phrases bateau, etc. Moi, je pense que vraiment que c'est un marathon et pas un sprint, et qu'il faut pas se cramer, et qu'il faut pas démarrer, faut pas se cramer très vite, faut se projeter dans le projet, faut pas partir dans l'idée. Alors, évidemment, tous les modèles de boîte sont possibles et imaginables, mais je pense qu'il faut pas partir dans l'idée de se dire que c'est une boîte qui va scaler très vite, on va lever beaucoup de fonds et puis on va la revendre dans 4 ans, dans 5 ans, parce que le risque c'est de se cramer très très vite et quand tu te crames, tu peux te cramer fort. Moi, je touche du bois, j'ai jamais eu de burn-out, j'ai jamais eu de moment où vraiment j'étais au fond du gouffre. Je pense que je gère bien la distance. Et je le vis vraiment comme un marathon. Donc je prends beaucoup de recul par rapport à ce que je fais. Je me crame pas à faire des nuits au boulot. Enfin, évidemment, je bosse dur. Ça m'arrive très régulièrement de bosser le week-end, etc. Mais je prends le temps de bien faire les choses. Et je prends le temps de je prends des pauses, je pars en vacances, je déconnecte.
Faire des choses aussi à côté.
Parce que je me projette à 10 ans, je me projette pas. C'est pas un projet où je me dis faut que j'arrive très très vite aux 100 millions de revenus et que je revende cette boîte. Quoi. Je prends le temps de bien faire les choses et pour l'instant ça marche. On croit bien, on est une boîte qui a cru très très vite. Hein. On a des rythmes de croissance qui sont comparables, voire supérieurs à des boîtes de software. Les choses vont bien et vite. Mais je prends du temps pour moi, je prends du temps pour ma famille, ma copine, mes copains, etc. Donc c'est faut pas se cramer. Enfin, c'est juste qu'il faut pas y aller trop fort, trop vite.
Okay.
En tout cas, c'est mon mode d'entrepreneuriat et je le vois vraiment comme un marathon.
Trop bien. Ouais. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent ?
Ouais. En tout cas, c'est un truc qui a bien marché pour nous. C'est de créer quelque chose de petit, de se concentrer vraiment sur la qualité du produit et la qualité de l'expérience client, sur un nombre limité d'utilisateurs ou de clients, et d'être sûr et certain qu'en fait les gens adorent ton produit, adorent le produit est un très bon fit par rapport à ce qu'eux attendent, avant de se lancer dans une grosse croissance. Donc vraiment de se concentrer sur un nombre limité de clients, de faire en sorte de créer le meilleur produit possible pour ses clients, et ensuite de construire sur cette base. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième, et surtout en ce moment où en fait les levées de fonds sont un peu plus rares et il y a un vrai enjeu de rentabilité, c'est de se concentrer très vite sur ce qu'on appelle les unités économiques, c'est les économies unitaires, faire en sorte que chaque produit qu'on vend, chaque abonnement qu'on vend, en fait est rentable et dégage une rentabilité positive, ou en tout cas le potentiel de dégager une rentabilité positive. Et de ensuite croître à partir de ça. Donc vraiment de se dire, mon abonnement, le modèle économique est viable à l'échelle de l'abonnement, à l'échelle de l'unité, et ensuite de se poser la question de comment démultiplier en fait cette unité pour en fait créer une boîte plus grosse.
Ok, trop bien. C'est quoi un peu, puisque le podcast s'appelle La Galère, c'est quoi un peu la plus grosse galère que tu as rencontrée en montant moto ? On en a abordé quelques-unes là pendant le podcast. S'il y en avait une qui t'avait marqué plus que d'autres ?
Alors nous, évidemment, on a Je pense que le moi personnellement le ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est que comme on est sur un produit où il y a des temps de développement très longs et qu'il y a beaucoup d'interdépendance avec des gens dans différents métiers, dans l'industrie, enfin dans le manufacturing, le supply chain, le marketing, etc. C'est de dépendre de tierces parties, beaucoup. Et souvent, on est tombé malheureusement sur des tierces parties qui n'étaient pas forcément les bons, qui n'étaient pas forcément compétents et qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, qui étaient en fait qui nous avaient très bien vendu leur approche, mais qui en fait dans l'exécution c'était pas ça du tout. Et à chaque fois, surtout quand t'as pas beaucoup de ressources, t'as pas beaucoup de temps, t'as pas beaucoup d'équipe, de tomber en fait sur des personnes qui étaient pas forcément bien intentionnées, ça a été très dur. Ça m'est arrivé 2-3 fois de tomber sur des prestats où ça marchait pas du tout et ça nous a fait perdre énormément de temps, d'énergie. Donc ça, ça a été la plus grosse galère, c'est de trouver de bien s'entourer par les bons partenaires.
Ok, j'allais te poser du coup la question, comment tu ferais différemment pour mieux faire?
Ouais, je pense qu'il faut. Moi, j'ai tendance à faire des due deals tout le temps. J'appelle des anciens clients, j'appelle des anciens partenaires, je leur demande est-ce que vous avez déjà bossé avec cette agence, est-ce que vous avez déjà bossé avec tel fournisseur. Si t'as le luxe et le temps de le faire, fais-le. Et si t'as la possibilité de trouver des gens qui l'ont fait, mais encore une fois, comme tous les projets sont spécifiques et particuliers, ça veut pas dire que ça se passera bien, mais au moins ça te permet de dérisquer au maximum, de demander des recommandations, de toujours cross-checker et de pas te lancer les yeux fermés dans un partenariat sans avoir parlé avec d'autres personnes.
Ok. Si t'avais une fierté ou un accomplissement particulier chez Moto, tu noterais lequel?
Je pense que mon plus grand succès chez Moto, alors au-delà du produit, de l'expérience, etc., c'est le fait de m'avoir réussi à très bien m'entourer, notamment par mes deux associés, donc Antoine et on l'appelle Pif, Pierre-François, qui sont vraiment excellents dans ce qu'ils font, qui en fait m'apportent énormément tous les jours. J'apprends beaucoup d'eux, ils sont très différents, ils ont tous les deux un scope assez spécifique, mais donc, d'avoir réussi à trouver les bonnes personnes pour porter le projet avec moi, donc ça c'est un vrai succès. Et la team aussi, le reste de la team, on a très vite trouvé les bonnes personnes sur tous les sujets. On est une team assez petite, hein, on est petit mais valeureux, et tout le monde fait un travail extraordinaire. Donc ça, je pense que les gens qu'on a pu mettre autour de ce projet, c'est ma plus grande fierté. Ouais.
C'est vrai que je t'ai pas posé de questions sur l'équipe pendant le podcast, mais effectivement avoir des cofondateurs qui te correspondent, qui sont peut-être complémentaires à toi, avec lesquels vous êtes, vous entendez bien, surtout vous êtes alignés avec la vision globale de l'entreprise, hyper fondamentale pour qu'une entreprise puisse fonctionner.
Bah, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante. Ouais. J'ai pas les stats, mais je sais
on
que
on dit souvent que c'est une des choses les plus importantes. X%
des startups qui marchent pas à cause des associés. Là, pour le coup, enfin, le truc qui a le mieux marché chez Moto pour l'instant, c'est l'association l'association des trois là entre nous.
Ouais. Et l'équipe, du coup, tu le soulignais également, équipe qui fonctionne super bien. Ouais. Tu les recrutes comment? T'as un peu des critères de recrutement, des choses que vous retrouvez chez chacune des personnes de chez Moto, ou au contraire des différences?
Alors nous, on a la manière dont on a beaucoup recruté, c'est par cooptation. C'est souvent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Et on a une équipe jeune, mais qui, enfin déjà extrêmement ambitieuse, douée. Et ce qui est génial dans ce qu'on fait, c'est que comme on a un projet physique, en fait, qui parle à tout le monde, les gens sont très engagés par le produit et le vivent au quotidien. Tout le monde est utilisateur moto, tout le monde adore la marque, adore le produit, et je pense que ça ajoute un degré de motivation, et ça se voit dans le travail tous les jours. Donc on a une super dynamique dans la team, tout le monde adore le produit, tout le monde est engagé dans la mission de ce qu'on veut faire, donc c'est génial.
Parfait, trop bien. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises au quotidien et que tu pourrais conseiller à nos entrepreneurs, ou en tout cas des outils dont tu pourrais plus te passer en termes de productivité ou de communication?
Ouais, alors moi je suis très à l'ancienne. Je suis très à l'ancienne et je suis pas très outil de productivité par ma team. Enfin, je sais pas si ma team écoutera le podcast, mais tout le monde utilise Notion. Je déteste Notion. Moi, j'utilise Google Sheet, Excel, Google Sheet. Non, alors moi j'utilise beaucoup mon agenda Google. En fait, c'est vraiment mon agenda Google qui structure ma journée. Donc, je crée des blocs à chaque fois avec des rappels, et ça me permet de structurer ma journée, de bloquer des temps de travail, etc. Donc vraiment, l'agenda Google, c'est mon meilleur ami. Hein, j'utilise pour tout, pour structurer ma journée, structurer mes to-do, etc. Ensuite, donc oui, Notion, on utilise beaucoup Notion. Moi, personnellement, je trouve ça assez complexe. Et je trouve que les outils de productivité sont de plus en plus compliqués, mais c'est quand même un bon outil pour le travail en groupe et
partager, tu vois,
pour partager des tâches. Et non, sinon, enfin, les outils classiques, on utilise Slack pour communiquer. Voilà.
Ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ou le pire, peut-être. Je sais pas si t'as quelque chose en tête.
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est mon investisseur. Je sais pas s'il écoutera le podcast. Il s'appelle Emmanuel Seget. Donc c'est quelqu'un qui a une super carrière chez Coca, qui ensuite a monté un fonds d'investissement qui s'appelle Cassius. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Son conseil, c'était de se concentrer sur un très petit nombre d'utilisateurs, leur livrer la meilleure expérience possible, faire en sorte qu'ils tombent amoureux du produit. Et si on a 10 personnes qui sont amoureux du produit et qui nous suivront tout au long du projet, en fait on a en fait c'est un super win, et ça permet ensuite d'étendre et de vendre le produit à beaucoup plus de monde. Donc vraiment d'avoir 10 personnes qui sont amoureux, absolument amoureux de ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on a fait avec Bloom, et ça s'est vérifié dans le temps.
Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a une personnalité que tu trouves particulièrement inspirante ou qui a été inspirante pour toi pendant ta carrière ou bien ton parcours chez Moto et que tu aimerais citer aujourd'hui?
Ouais, alors il y a pas mal de gens qui m'inspirent beaucoup. La personne à laquelle je pense, ça peut être des gens, ça peut être n'importe qui.
Peut être n'importe qui.
Ok. J'ai récemment lu la biographie de Bob Iger, qui est le CEO de Walt Disney.
Ouais.
Et qui en fait était CEO de Walt Disney pendant très longtemps, a totalement transformé Disney. Il a racheté des franchises Marvel, il a créé Disney Plus, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a... En fait, Disney était en train de dépérir. Au début des années 2000, ils n'arrivaient plus à avoir de succès avec l'émergence de concurrence comme DreamWorks, Pixar, etc. Et donc, ils ont rappelé Bob Iger. Enfin, ils ont nommé Bob Iger, qui a totalement transformé l'entreprise, qui en a fait aujourd'hui une des entreprises les plus successful au monde. Il a notamment racheté Pixar à Steve Jobs. Et en fait, il est reparti. Et Disney a recommencé à dépérir et il est revenu récemment et il a redressé la boîte. Et je trouve sa vie super inspirante. C'est quelqu'un d'extrêmement humble. Extrêmement humain, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif aussi et qui a une intuition business qui est juste, je pense, en commune mesure. Je trouve quelqu'un de très inspirant. Donc, si tu arrives à le contacter et l'avoir sur le podcast, très très content.
J'essaierai de le contacter, je sais pas s'il me répondra, mais ok, on essaiera. Trop cool, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Moto pour la suite?
Moto, je pense qu'on peut souhaiter à Moto de continuer de séduire les abonnés comme on le fait aujourd'hui et peut-être à plus grosse échelle et peut-être beaucoup plus loin au-delà des frontières françaises. Continuer à construire un produit qui en fait change les villes et change la mobilité. Continuer de m'épanouir dans mon rôle d'entrepreneur aux côtés de mes associés, de mes équipes et continuer de grandir dans mon rôle.
Ok, écoute, on te le souhaite et on souhaite à Moto également. Merci beaucoup Driss d'avoir participé à ce podcast et
merci
à bientôt.
C'était génial, merci.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note de 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins d'accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up. On saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. À très vite.